tous, bienvenue dans l'émission Verte et pas mûre, une émission où on veut décrypter l'actualité écologique à la lumière de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on accueille Joël. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un sujet qui te tient à cœur, Joël. Alors déjà, est-ce que tu veux te présenter toi personnellement? Qui es-tu?
Alors oui, j'ai 45 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants. J'habite à côté de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Villenouvelle. Et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse dans le domaine de l'écologie.
Tiens, tiens, ça nous intéresse. Justement, aujourd'hui, on va continuer de parler d'écologie dans cette émission et en particulier de la biodiversité. Quel est ton rapport avec la biodiversité?
Alors, j'ai toujours été, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'animaux en particulier et puis de nature en général. Voilà, aussi loin que je me souvienne, hein, j'étais intéressé par tout ce qui m'entourait. Et puis ça continue encore aujourd'hui, je suis un peu un féru d'ornithologie. Dès que je peux, je m'échappe pour aller observer, compter, identifier toutes les espèces que je peux voir.
Alors, l'ornithologie, c'est quoi, tu peux nous le dire?
C'est l'étude des oiseaux.
Ok. Et alors, comment est-ce que tu t'es intéressé au lien entre la foi et l'écologie?
Oui, alors c'est vrai que donc je suis chrétien, ça je ne l'ai pas dit dans ma présentation.
Oui, j'ai
Je
brûlé les
fréquente
étapes.
une église protestante et évangélique à Toulouse. Et pendant très longtemps, en fait, j'avais d'une part ma passion pour la nature, mon intérêt pour tout le vivant. D'autre part, j'avais ma foi, mais je ne faisais pas forcément le lien entre ces deux domaines. Et vous êtes peut-être pas sans savoir que la biodiversité est en déclin, hein, y a une crise majeure qui secoue la planète. Et ça m'attristait, mais je voyais pas trop, encore une fois, enfin, ça m'attriste toujours, mais je voyais pas le lien avec ma foi et comment je pouvais relier mon obéissance à Dieu et puis ce soin de la création.
Ok, donc tu dis, ça m'attristait, mais ça m'attriste toujours. Par contre, tu dis, je ne voyais pas comment je pouvais faire. Et là, au présent, t'en es où?
Oui, alors en fait, ce qui a peut-être changé les choses, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient dans une association qu'on appelle Arocha. Ce sont des chrétiens qui s'engagent pour la préservation de la biodiversité et puis qui ont aussi tout un travail de sensibilisation auprès des chrétiens dans les églises. Et en réfléchissant avec des gens qui avaient les mêmes préoccupations que moi, eh bien, j'ai vraiment été amené à comprendre que je pense que dans ce que Dieu nous demande, il y a bien sûr témoigner de son évangile, parler aux gens, les aimer, mais aussi aimer et prendre soin de la création, de la biodiversité que nous entoure.
C'est vrai que c'est pas forcément au même niveau hein, quand on entend parler de la foi chrétienne. Voilà, on entend peut-être plus l'aspect social, mais pas forcément l'aspect écologie. Et oui, pour la petite anecdote, moi aussi j'ai rencontré des gens d'Arocha, ils sont chouettes ces gens. Allez les rencontrer si vous avez l'occasion. Bon, je ferme la parenthèse. Et du coup, aujourd'hui, de quoi as-tu envie de nous parler, Joël?
Et ben justement, peut-être pour faire la transition avec ce dont on parle, sur le ben justement ce lien entre foi et le soin de la création, en fait, le fait que la biodiversité soit en déclin, et ben c'est causé par l'homme, c'est l'humain par tout un tas d'actions qui va induire ce déclin de la biodiversité. Et malheureusement, alors c'est triste parce qu'il y a de moins en moins d'espèces sur Terre et surtout les populations sont en déclin. Mais surtout, ça va avoir un impact sur nous, les êtres humains. C'est-à-dire que on a besoin de la biodiversité pour tout un tas de ce qu'on appelle. Alors c'est un peu un gros mot, mais c'est des services écosystémiques. Hein, c'est des services que nous rend la nature. Et moins il y a d'espèces, plus on va avoir pour tout un tas de raisons que je pourrais développer si ça vous intéresse. De soucis, donc.
Oui, on va peut-être découper tout ça, peut-être déjà le mot biodiversité. J'entends biodiversité, je pense aux différentes espèces de plantes, d'animaux. Est-ce que je suis dans le mille?
Oui, complètement. Ouais, en fait, la biodiversité, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, hein, qui est maintenant rentré dans le langage courant. Mais c'est simplement un mot pour désigner l'ensemble des êtres vivants qu'il y a sur Terre. Et comme tu dis, on va peut-être plutôt penser aux animaux qui nous sont proches, donc les mammifères, peut-être les oiseaux, les reptiles.
Les humains?
Les humains, voilà, font partie, c'est une des espèces qu'il y a sur Terre. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces espèces-là, ça constitue une toute petite partie de toute la diversité qu'il y a sur la planète.
Oui.
On pense qu'il y a jusqu'à 2 millions d'espèces en tout, et la moitié de ces espèces, ce seraient les insectes. Il y a une diversité foisonnante d'insectes, 1 million d'espèces d'insectes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on, c'est la biodiversité qu'on connaît. Et puis il y a toute une biodiversité qu'on suspecte. On pense qu'il y a encore 9 millions d'autres espèces à décrire. Donc ça fait
Ah oui.
un total de 11 millions, ce qui est assez incroyable.
Ah
Et
donc, non, finalement, et pas besoin d'aller loin pour observer la biodiversité. Avec les insectes, on peut déjà avoir beaucoup d'espèces à portée de main, quoi.
Oui.
Moi, dans mes jardinières, du coup, j'ai une biodiversité impressionnante, j'imagine.
Oui, bah, comme je disais, ouais, il y a des espèces qui s'adaptent tout à fait en ville, ce qu'on appelle des espèces généralistes, hein, qui arrivent à tirer profit de même d'habitats qui sont peut-être un peu moins riches que des espaces naturels, mais oui, il y en a vraiment partout. Et puis, encore plus près de nous, on peut penser à nos intestins. On porte chacun en nous jusqu'à 500 espèces différentes de bactéries qui ont un rôle super important pour la digestion,
Ah
pour notre
oui.
système immunitaire. Donc voilà, ça c'est un aspect de la biodiversité auquel on ne pense pas souvent,
Non.
mais c'est le microbiote intestinal et qui est crucial pour notre santé.
Ok. Donc, si on résume un petit peu, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants sur la Terre. Il y en a énormément. On n'en soupçonne pas la quantité, puisque même aujourd'hui, on n'a même pas découvert le tiers, en fait, de tout ce qui peut exister. Et elle est majoritairement, tu disais, chez les insectes, dans le sens où il y a beaucoup plus d'espèces d'insectes différentes que d'espèces de mammifères ou d'oiseaux, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le groupe qui a vraiment foisonné sur Terre. Donc, c'est pour les vertébrés, je crois que sur l'ensemble, on doit être à peu près à, allez, je vais peut-être dire une bêtise, mais 20 000 espèces. Donc, c'est vraiment tout petit par rapport aux millions d'espèces d'insectes qui ont été décrites.
D'accord.
Et on continue à en découvrir chaque année. C'est vraiment un groupe d'animaux qui sont hyper diversifiés. Chaque petit habitat va abriter une espèce et chaque année, on en découvre encore plein d'autres.
Ok.
Oui.
Et tout à l'heure, tu disais qu'elle était en déclin, cette biodiversité. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus?
Oui, en fait, on estime que en fait, il y a une espèce sur 8 qui est menacée d'extinction à brève échéance. Ce qui est énorme. Et alors, il y a déjà un certain nombre d'espèces qui se sont éteintes, peut-être certaines qu'on n'a même pas eu le temps de décrire avant qu'elles s'éteignent. Et en fait, ce qu'on sait, ce qui est clairement établi, c'est que c'est l'être humain qui est la cause de cette extinction. Il y a eu des extinctions massives par le passé. On
Oui.
connaît la plus célèbre, c'est celle
Les
il y
dinosaures.
a 65 millions d'années, voilà, entre le Crétacé et l'ère tertiaire. Mais là, voilà, on est en train de se diriger vers encore une autre extinction massive qui fait un peu peur. Et clairement, c'est l'être humain qui va être la cause de ces extinctions, pardon. Et je pense que une des causes majeures, ça va vraiment être la destruction des habitats, notamment dans les pays du Sud. Et ça va vraiment être, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est notre consommation en tant qu'occidentaux, donc, qui est la cause de cette déforestation et du déclin de la biodiversité. Mais c'est pas que dans les pays du Sud. En Europe aussi, on a des espaces naturels qui sont de plus en plus grignotés, artificialisés. Et on estime qu'en Europe, par exemple, c'est 24 terrains de football par heure qui disparaissent du fait de l'artificialisation des sols.
Et tu sais pourquoi est-ce qu'on détruit ces habitats?
Et ben alors ça va être beaucoup de construction pour des plateformes logistiques, pour des industries, pour des supermarchés, des lotissements. Et la France est le troisième pays où on artificialise le plus en Europe. Et voilà, ça on peut le constater aussi autour de Toulouse, hein, vraiment l'expansion de l'empreinte humaine sur les espaces naturels. Alors ça va remplacer des espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels.
Oui, parce que quand on dit on artificialise, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu me dis si je me trompe, mais on détruit la nature. Et aussi, il n'y a pas cette histoire d'empêcher l'eau de passer. Enfin, c'est quoi, en fait, l'artificialisation?
Oui, c'est ça. En fait, le plus simple, c'est s'imaginer qu'on va recouvrir un espace naturel avec effectivement de la végétation, un sol vivant, des arbres, etc., par une surface imperméable.
Voilà, c'est
Euh,
ça le
donc,
mot que
ça
je
va
cherchais.
être donc, du béton, hein,
Imperméabilisé.
beaucoup, hein, quand on pense à toutes ces constructions, ces parkings, ces supermarchés, etc. Et tu as raison de dire que une fois qu'on a fait ça, Et bah, tous les cycles naturels, hein, tout ce qui est vivant dans le sol ou la photosynthèse des plantes, etc., va être arrêté. Et le problème, c'est que c'est assez durable. C'est-à-dire que même, on peut imaginer qu'on a couvert on a construit un parking et ensuite on le
Oui,
détruit.
oui.
Eh bien, ça va mettre beaucoup de temps
Oui.
pour que cet espace soit de nouveau fonctionnel avec de l'eau qui circule, des micro-organismes dans le sol qui permettent aux plantes de pousser, etc.
Ok. Bon, donc le bilan n'est pas super positif, comme tu disais, hein. On n'a pas envie d'avoir une extinction comme avec les dinosaures aujourd'hui, mais c'est ce qui est en train d'arriver à cause de notre action, enfin de notre empreinte sur l'environnement. On est en train de détruire la biodiversité. Ok, bon, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite pause musicale pour se remotiver?
Ça marche.
Donc on va écouter une musique que tu nous as proposée du groupe Chrétien Antidote. La musique s'appelle Artisan de merveille et justement, il parle de la création. Allez, écoutons.
Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image. Donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh,
super, merci pour cette musique. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en train d'écouter l'émission Verte et pas mûre, une émission qui veut parler de la foi chrétienne et de l'écologie, de comment est-ce qu'on peut regarder l'actualité environnementale à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, présentée par la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes avec Joël, donc, qui nous a parlé de son lien avec la biodiversité, avec la création, on va dire en termes chrétiens, de comment il aime cette nature, cette création, et aussi de comment est-ce qu'elle est détruite en ce moment par l'activité humaine. Là, on vient d'écouter une musique d'Antidote avec, alors vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo qui est magnifique, qui reprend différents éléments de la nature, des animaux, mais aussi les plantes qui fleurissent, les bourgeons. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Moi qui habite en centre-ville, j'avoue que j'ai pas souvent l'occasion de voir ces jolis couchers de soleil, des choses comme ça. Donc, merci pour ce partage, vraiment, Joël, ça m'a fait du bien. Toi, tu veux rebondir sur cette chanson, sur cette vidéo?
Oui, en fait, donc Manon m'a demandé peut-être de choisir une petite musique justement pour cette émission, et j'ai pensé à celle-ci parce que justement je trouve que les auteurs ont vraiment des belles formulations. Ils disent que Dieu est un artisan de merveilles, que la création est l'étincelle de sa puissance et de sa sagesse. Je trouve ça vraiment très bien formulé. Et puis par ailleurs, c'est assez péchu, et mes enfants aiment beaucoup cette musique. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pertinent de mettre cette chanson lors de cette émission.
Mais c'est vrai qu'elle reste en tête, hein, le petit refrain là.
Oui.
Il reste en tête, mais c'est bien, ça donne un petit peu de peps à tout ça. Ouais, j'ai en particulier, moi, j'ai aimé qu'on appelle ça le pont. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. En fait, l'idée que si on regarde la création, elle nous pointe vers un Dieu qui est merveilleux, qui est plein de créativité et qui aussi permet à tous ces êtres de vivre encore. Alors même si on voit qu'il y a une extinction, mais voilà, il les a tous créés et il les aime. Et du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être passer sur le lien avec la foi chrétienne et la Bible, si ça te va.
Oui, très bien. Juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, effectivement, ça, c'est un des soucis de la destruction du vivant, c'est qu'on a des occasions en moins de s'émerveiller devant la création de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va détruire un écosystème fabuleux, c'est une occasion de s'émerveiller en moins. Donc, on peut aussi le voir dans cette perspective-là. Mmh. Et donc, effectivement, c'est complètement en lien avec ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire quel est le lien entre... pourquoi ça nous concerne, nous, les chrétiens, de prendre soin de la création et d'essayer d'agir pour essayer d'en limiter les effets, quoi.
Et oui, justement, ça me fait penser, je crois que c'est dans Romains, je ne sais pas si tu as le passage là, sinon on va le retrouver, comme quoi, en fait, la création est... Enfin, on peut se poser des questions de l'existence de Dieu, d'un Dieu créateur, du fait de la beauté de sa création. Et quand on voit un environnement détruit, on va être forcément moins émerveillé que quand on voit, voilà, un environnement foisonnant de biodiversité. Moi, je pense à, par exemple, les barrières de corail, qu'elles soient détruites, elles sont ternes quand elles sont détruites. Et quand elles sont encore en vie, il y a beaucoup de poissons, beaucoup de vie, beaucoup de couleurs, c'est magnifique. On peut que s'émerveiller et ça peut être, ouais, un pont vers la réflexion d'un créateur. Tu l'as ce passage ou est-ce qu'on en... Parce qu'on en a d'autres hein, sous le coude qui sont intéressants aussi, qui parlent de ça. Déjà, on a le départ de la Bible avec la Genèse 1, où Dieu il crée tout l'univers et il considère que c'est bon. Donc Genèse 1, 31 par exemple, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il constata que c'était très bon.
Tout à fait, oui. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'effectivement, le mot biodiversité, il n'apparaît pas dans la Bible, mais c'est quand même un concept qui est profondément biblique. En fait, on voit qu'il y a tout un tas d'espèces d'animaux qui sont mentionnées. Et puis, effectivement, pour rebondir sur le passage que tu viens de lire, quand on dit que Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, ben voilà, ça, c'est la biodiversité. Et quand on parcourt la Bible, on voit vraiment que Dieu a un amour, une passion pour sa création et qui va transparaître du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et puis, alors, c'est souvent par l'intermédiaire, enfin, la focale de la Bible est vraiment sur cette relation entre Dieu et les humains.
Oui.
Mais il y a aussi des passages où on voit que Dieu a une relation spécifique et particulière, un amour particulier avec toutes ces créatures non humaines où l'humain n'est pas du tout mentionné. Par exemple, dans Job 38 et 39, c'est un Dieu qui va s'adresser à Job et qui dit, par exemple, est-ce que toi tu peux chasser la proie pour la lionne? Est-ce que toi tu apaises la faim des lionceaux quand ils sont tous tapis au fond de leur tanière? Et voilà, et on voit, il y a tout un tas de mentions de différentes espèces présentes dans différents écosystèmes. Et on voit que finalement, Dieu a vraiment le souci de chacune de ces espèces. Et ça permet de pour nous de mettre un petit peu un pas de côté, c'est-à-dire voilà, ok, il y a cette relation hyper importante entre nous et Dieu, mais il n'y a pas que ça dans l'équation, il y a aussi toute la création dans laquelle on vit et qu'on ne peut pas totalement négliger. Et en premier lieu, parce qu'on a mentionné avant, hein, que la destruction va causer tout un tas de souffrances pour les personnes qui sont dans ces écosystèmes détruits. Donc, si on suit les commandements de Jésus qui est aimer son prochain, et ben voilà, comment est-ce qu'on peut dire aimer son prochain si par nos comportements, nos sociétés de consommation, nos modes de consommation, on contribue à la souffrance de notre prochain, par exemple?
Et oui. Et d'ailleurs, là, dans la Genèse, en fait, Dieu, il va pas détailler toutes les espèces qu'il a créées à ce moment-là. Il nous donne un petit peu les groupements de créatures qu'il va faire et aussi bon, bref, des astres. Mais que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre, par exemple, dans le verset 20. Ou alors, il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, dans le verset 21. Donc là, il nous donne plutôt des groupements, alors que dans d'autres passages, comme tu citais là dans Job, si franchement, si vous avez une Bible, allez-y, regardez, c'est super intéressant de voir tous ces animaux qui sont cités, Job 38 et 39. Moi, j'ai aussi ce passage là du psaume 104 que j'aime beaucoup. Je vais lire juste quelques versets. Donc c'est le psalmiste qui écrit: Il conduit les sources vers les torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent. Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de biens. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. J'ai lu un extrait qui était un peu long, mais qui est quand même super intéressant. On n'a pas que des animaux d'ailleurs. On n'a pas que de la biodiversité. On a les astres, on a les montagnes, les sources, des torrents. Mais on voit bien que il y a une diversité dans la création de Dieu et qu'elle lui rend gloire, cette diversité. Et que Dieu se réjouit aussi de cette biodiversité.
Oui, complètement. Et moi, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est qu'on voit que le psalmiste, alors je ne sais pas si c'est David, mais c'est un bon naturaliste. Hein. Il connaît les oiseaux, enfin les animaux, il sait où ils vivent, etc. Donc je pense que si c'est David, tout le temps qu'il a passé à garder ses troupeaux, ça lui a permis de
Ah,
prendre
peut-être.
du temps pour observer tout ça. Et puis lui, il voit ça aussi comme une manifestation de la grandeur de Dieu. Ouais.
Ouais. Ok, donc on a illustré le fait que dès qu'on détruit la création de Dieu, on détruit une partie en fait de son image, de comment il veut se révéler à nous. Et donc si je veux faire le lien avec l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ vient annoncer dans sa venue. Jésus nous appelle à reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'aide pour faire le bien. Là, je pense qu'on l'a reconnu que par notre mode de consommation globale et peut-être individuelle aussi finalement, on est en train de faire du mal à d'autres, à toute la création et même à Dieu lui-même, en faisant du mal à tout ce qu'il a créé, en faisant du mal aux êtres humains qu'il aime particulièrement et aussi à son image finalement glorieuse qui était initialement voilà, intacte et nous on est en train de la détruire. Et prendre conscience qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes, alors Est-ce que tu penses qu'on a cette conscience-là aujourd'hui en France, que on n'arrive pas à changer nos mœurs, on a besoin d'aide pour aller dans le bon sens au niveau de la biodiversité?
Oui, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un conseiller d'Obama qui avait cette citation que je trouve assez parlante, et je vais vous la lire par rapport à ça, un petit peu à notre. Donc, il s'appelle Gus Speth, avec l'accent français. Il dit ceci: J'ai longtemps pensé que les principaux problèmes environnementaux étaient la raréfaction de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans d'avancées scientifiques pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie. Et pour faire face à ceci, on a besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Et nous, les scientifiques, on ne sait pas comment faire. Donc en fait, ce qu'il dit là, c'est qu'effectivement, le problème fondamental, c'est un peu nous-mêmes, c'est notre cœur qui, on a beau vouloir faire mieux. Finalement, alors c'est ce qu'on appelle le péché, c'est ce qui va nous éloigner de Dieu. C'est un peu ça qui est à l'origine, et donc effectivement, c'est ce qu'il dit, c'est que on a beau essayer par nos petites actions, allez, je trie mes déchets, je vais acheter local, je vais essayer de moins consommer, on se rend compte que déjà ça, notre impact est peut-être minime, et puis on voit pas trop la différence, et donc en fait, par nous-mêmes, on va pas y arriver. Et c'est peut-être avec un changement fondamental dans nos modes de vie et dans notre relation à Dieu qu'on peut peut-être essayer d'avancer.
Elle est super intéressante cette citation. Donc lui, c'est un scientifique, c'est ça?
Oui.
Parce qu'il dit, nous les scientifiques,
Oui.
on ne sait pas comment faire. D'accord. Et ben voilà, ça. Merci, tu illustres très bien mon propos. Mais je pense qu'il y a aussi des solutions. Jésus ne vient pas juste nous accuser et dire, vous n'y arrivez pas, vous avez besoin d'aide. Il vient aussi nous sauver de notre péché. Donc tu as introduit ce mot-là, le péché. Il vient nous en sauver en prenant sur lui, en fait, toute la punition que méritent nos œuvres et nos actes. En tout cas, il le fait pour tous ceux qui veulent bien mettre leur confiance en lui, qui veulent bien croire qu'il est venu en tant que Dieu, Dieu qui s'est fait homme sur terre, qu'il est venu vivre une vie parfaite et mourir injustement, donc à la croix, c'est ce qu'on célèbre à Pâques. Il est mort et puis aussi il est ressuscité. Il a vaincu cette mort. Et ce qui est super chouette, la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle et pas une mauvaise nouvelle, l'évangile, c'est que il nous permet, nous aussi, d'avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent avoir cet Esprit de Dieu en eux. Et cet Esprit-là, il va les aider à discerner le bien du mal, à faire le bien de plus en plus, à ressembler de plus en plus à Jésus, à Dieu au final.
Je suis totalement d'accord.
Bon, c'est bon, j'ai pas dit trop de bêtises. Tu es d'accord avec moi. Bon. En gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à la conscience du bien et du mal, on peut avoir l'amour pour ceux qui sont loin de nous, qui sont en train de subir encore plus que nous les conséquences du changement climatique, pour la diversité, la biodiversité de Dieu, pour Dieu en lui-même. Et on peut aussi, du coup, progresser à notre niveau et surtout avoir cette révolution spirituelle dont parlait ce conseiller d'Obama, dont j'ai oublié le nom.
Gus Spett.
Gus Pet, yes, merci. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, peut-être Joël, pour conclure?
Ben, peut-être juste pour conclure, en fait, nous, notre espérance en tant que chrétien, c'est que Jésus dit que il va restaurer la terre et toute la création. Et en fait, il y a un autre passage, alors peut-être que tu pourras nous le rappeler, qui nous appelle déjà à vivre. On est en train de vivre peut-être les prémices de cette restauration, même si elle n'est pas du tout effective. Et en fait, l'espérance qu'on a, c'est que nous, on peut déjà dès aujourd'hui œuvrer, s'engager dans l'œuvre de restauration qui sera pleinement accomplie à la fin des temps. Alors, c'est peut-être un peu compliqué ce qu'on est en train de dire là, mais en tout cas, on a cette espérance que, in fine, la création sera renouvelée, restaurée. Et ça, c'est vraiment une belle espérance pour nous chrétiens.
Donc il y a deux mouvements, si on peut dire. Il y a cette destruction qui est en train de, voilà, de s'aggraver. Et d'un autre côté, tu parles d'une restauration qui a déjà commencé. Donc un peu voilà, une pente vers le bas avec au niveau de la biodiversité, de l'environnement, mais aussi une pente vers le haut. Du coup, ça concerne qui cette pente vers le haut?
Et bah tout, ouais, c'est-à-dire toute l'humanité. Enfin voilà, il y a vraiment cette espérance que Dieu va revenir pour appeler à lui tous ceux qui lui ont donné leur cœur. Mais ça concerne aussi la création dans son ensemble. Le fameux passage qui est Jean 3,16, qui est Dieu a tant aimé le monde, en fait apparemment, La traduction grecque, c'est Dieu a tant aimé le cosmos, c'est-à-dire vraiment, bien sûr, les êtres humains, mais aussi toute la création. Et elle va être renouvelée aussi. C'est
Oui.
pas qu'un salut pour les êtres humains, en fait.
Donc cette pente vers le haut, c'est ce que tu as appelé l'espérance, c'est ça, c'est la confiance que Jésus, il va restaurer tout ça, il va réparer, il va même faire une nouvelle création où il n'y aura plus la souffrance, où il n'y aura plus la destruction, le mal. C'est bien ça?
Tout à fait.
Ok. Bah écoute, je te remercie pour cet échange qui était riche et bah, je te souhaite de bien rentrer chez toi. Une prochaine fois peut-être si tu voudras parler plus d'autres sujets qui t'intéressent.
Aucun souci. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Et bien, avec plaisir pour ma part. Chers auditeurs, c'est ici que nous nous quittons aussi. Je vous dis au revoir et au mois prochain.